qu'on va pouvoir être ensemble pour s'édifier, s'encourager et se faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas et qu'il nous bénisse tous ensemble. Que tout ce qu'il va vous donner, tout ce qu'il va vous accorder, eh ben, ça puisse rejaillir autour de vous et que vous puissiez vraiment être une source de bénédiction aussi pour tous ceux qui vous entourent. Ça, c'est important. Et on va commencer cette nouvelle année avec un nouveau sujet. Je pense que les uns et les autres, on est tous conscients qu'on est tous appelés à grandir, on est tous appelés à progresser, et ça dans n'importe quel domaine de notre vie. C'est vrai dans le domaine des études. Alors pour ceux qui sont à l'école, dans le domaine scolaire, il y a certainement des matières dans lesquelles vous êtes meilleurs que d'autres, et il y a une moyenne qu'il faut obtenir pour pouvoir passer dans la classe supérieure, ou alors pour pouvoir passer les examens. Alors bon, il y en a certains d'entre vous, j'imagine, ils sont bons en français, ils ont 15, 17 de moyenne, et puis par contre en mathématiques c'est un peu plus bas, ça tourne autour de, je sais pas, 7, 8, 10. Donc le but là, c'est que en mathématiques, il faut que j'augmente mon niveau, il faut que je passe là au niveau supérieur. Il y en a d'autres, ça va être l'histoire géo où ça va être plus faible, donc il va falloir augmenter le niveau en histoire géo alors que vous êtes fort en sciences physiques, etc. Pour tous ceux qui sont à l'université, ça fonctionne de la même manière avec les matières qui sont les vôtres. C'est vrai aussi qu'on est appelé à grandir et à progresser dans le domaine sportif. Il y a quand même quelques sportifs là parmi nous ce soir. Vous faites quoi comme sport? Ouais, tu fais quoi toi comme sport, Victoria? Il y a Lucie, je crois. Lucie, c'est une sportive. Ouais, je te vois, t'es là. Tu cours, toi. Alors, j'imagine que par exemple à la course, il faut toujours améliorer son temps. Il faut vraiment passer d'un niveau supérieur à chaque fois. Mais dans n'importe quel sport que vous faites, c'est ça. On essaye d'augmenter, de grandir, de progresser. C'est aussi le cas dans les bonnes résolutions, parce qu'on est en début d'année. Alors on sait que la tradition, généralement, c'est de prendre des bonnes résolutions, c'est de dire bon bah voilà, dans ce domaine de ma vie, il va falloir que je progresse. Je suis au niveau 4, mais là, par exemple, maîtrise de soi, c'est moyen devant la part de gâteau au chocolat. Donc je suis niveau 4, faut que je passe niveau 6 au niveau 7. Ou plein d'autres domaines comme ça, les résolutions, c'est justement pour pouvoir grandir et pour pouvoir progresser. Et même chose dans le domaine spirituel. On est tous appelés à grandir, à se développer sur le plan spirituel. Et ces moments qu'on a ensemble, c'est destiné à ça. C'est vraiment l'objectif premier du groupe de jeunes. Mais curieusement, ce soir et les autres samedis qui vont venir, ce que je vais vous proposer, c'est de régresser. Je vois des regards interrogatifs. Attends, toujours tu nous encourages à progresser, puis ce soir tu nous dis on va régresser. Exactement, ensemble on va régresser. On va essayer d'être le plus nul possible. On va essayer d'atteindre le niveau zéro dans le domaine qu'on va aborder ensemble à partir de ce soir. Parce que je voudrais qu'on parle avec vous de la religion. Et s'il y a bien un domaine dans lequel il faut régresser, dans lequel il ne faut pas progresser, c'est bien le domaine de la religion. Et ensemble, l'objectif qu'on va se donner, c'est d'atteindre le niveau zéro. Atteindre le niveau zéro en religion. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui se reconnaissent dans la religion. Et c'est en particulier le cas des jeunes. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on puisse en parler ensemble. Et il y a un sondage qui a été fait, un sondage au niveau international, il y a environ 5 ans. Et on a posé plusieurs questions à des jeunes sur les 5 continents. Et parmi les questions qui étaient posées à ces jeunes, pour comprendre comment ils se situaient dans le monde d'aujourd'hui, il y avait la question suivante. Quelle importance accordez-vous à la religion dans votre identité? Et à cette question, les Français, qui étaient dans la tranche d'âge entre 16 et 29 ans, donc c'est, je pense que vous êtes tous dans cette tranche d'âge ce soir, les Français ont répondu à 21% tout à fait importante ou plutôt importante. La religion est tout à fait importante ou plutôt importante dans mon identité. 21%. Il y a 74% des jeunes Français qui ont répondu plutôt pas importante ou pas du tout importante. 74%. On voit quand même que la proportion, elle est énorme. La religion, ça parle pas aux jeunes. Ça correspond pas à grand-chose dans leur vécu. Et puis, il y a 5% qui ont répondu « je ne sais pas ». Je sais pas. Est-ce que ton identité religieuse est importante pour toi? Je ne sais pas. J'ai jamais réfléchi à la question. Il y a des gens qui n'ont même pas pensé. Et d'une façon globale, les gens n'aiment pas entendre parler de religion. Avec quoi ça rime, religion? Quand on entend les gens qui sont autour de vous, peut-être même quand vous en parlez ou vous les entendez parler, qu'est-ce qu'ils utilisent comme mot? La religion, ça rime avec contrainte, ça rime avec commandement, avec règlement, avec quoi? Dites-moi, avec rite, avec les rites, avec la morale. La religion, c'est une question de morale. On a plutôt une vision de quelque chose d'austère, l'austérité, l'ennui et quelquefois même l'hypocrisie. La religion, c'est vraiment un truc pour les hypocrites, voilà. Jésus, qui est notre référence, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement que Jésus n'était pas religieux. Et c'est pour ça qu'on est encouragé quand on voit Jésus agir, quand on l'entend parler, quand on lit ses paroles dans les évangiles, on est vraiment encouragé à atteindre le niveau zéro de la religion, parce que Jésus, c'est vraiment le contraire du gars religieux. Quand Jésus est venu, il n'a pas du tout prêché une nouvelle religion, parce que souvent on associe le christianisme comme religion à Jésus, mais il n'est pas venu pour prêcher une religion, il est venu pour prêcher un message, le message de l'évangile, un message de libération, un message d'espérance, un message de salut. Et on peut même remarquer en lisant l'évangile que parmi les plus farouches adversaires de Jésus, on trouvait les gens religieux de l'époque. Ils ne pouvaient pas supporter Jésus. Quand ils l'entendaient parler, quand ils le voyaient agir, quand ils voyaient son comportement, ça leur faisait hérisser tous les poils du corps. Ils ne supportaient pas les paroles et le comportement de Jésus. Quand on voit Jésus, c'est vraiment un non-sens, je dirais une aberration de vivre sa foi chrétienne comme une religion. Et pourtant, vivre la vie chrétienne d'une façon religieuse, c'est quelque chose qui nous menace tous. Alors je sais que dans notre langage courant, on dit, mais oui, nous on ne vit pas une religion, on vit une relation avec Dieu, une relation avec Jésus. Et en gros, la religion, ça concerne les gens de l'extérieur, d'autres chrétiens. Mais je crois en réalité que la religion, elle nous menace tous. Là, dès qu'on a franchi la porte de l'église, derrière la porte, elle est là, elle guette, et elle voit quand est-ce qu'elle va pouvoir te bondir dessus. Derrière ta chaise, là, en fait, là, elle est là, elle va essayer de t'agripper à ta chaise. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce que je voudrais voir avec vous, à partir de ce soir, c'est quels sont ces mécanismes qui font qu'on peut devenir religieux ou religieuse les uns et les autres. Et la première distinction que je voudrais faire avec vous, c'est que l'évangile, c'est être, mais la religion, c'est faire. Être ou faire. Et ensemble, on va se pencher sur un texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 23. On va lire simplement les quatre premiers versets de ce texte. Et vous allez voir comment Jésus parlait des religieux de son époque. Alors Jésus, souvent on a l'image de Jésus qui est sympa, qui est gentil, qui vient, qui fait du bien. Là, il balance, hein. Vous allez voir que c'est des missiles, hein. Boum, boum, ça nous éclaire vraiment sur ce que Jésus pensait de la religion, hein, pour le coup. Donc Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus s'adressa à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Les scribes et les pharisiens, dit-il, sont assis sur le siège de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. On voit que Jésus vise ici des personnes qui étaient très religieuses. Il nous parle de deux catégories de personnes, ce sont les scribes et les pharisiens. Alors juste quelques mots d'explication, j'espère que je ne vais pas vous perdre alors qu'on est encore au début du message, mais c'est important pour bien comprendre ce que Jésus est en train d'enseigner. Les scribes, c'était les spécialistes de la loi de Moïse. C'était un peu comme les juristes aujourd'hui. Par exemple, quand quelqu'un voulait se marier, pour qu'il soit sûr que le mariage soit valide et soit conforme à la loi de Moïse, il fallait s'adresser à quelqu'un qui connaissait bien la loi. Donc on allait voir le scribe. Même chose pour les héritages, même chose pour savoir quel sacrifice offrir au temple. Il connaissait tellement bien la loi qu'on allait les consulter. Donc il y avait un grand prestige qui était attaché à cette fonction de scribe parce qu'il savait beaucoup de choses. Et puis les pharisiens, il en est souvent question dans les évangiles, ils formaient un groupe au sein du judaïsme de cette époque qui cherchait à appliquer la loi dans tous les aspects de leur vie. Donc ils étudiaient l'Ancien Testament, ils examinaient les commandements de Dieu, et pour pouvoir être sûr d'appliquer la loi de Dieu le plus précisément possible dans chaque aspect de leur vie, ils tiraient de nouveaux règlements à partir des commandements de Dieu. Par exemple, dans la loi, il est dit qu'il faut respecter le sabbat. Ok, d'accord, mais comment je vais faire pour le respecter le mieux possible? Alors, quand est-ce que je vais commencer à respecter le sabbat? Alors, il fallait commencer le sabbat quand il y avait la première étoile qui apparaissait le vendredi soir. Il y avait toutes sortes de règlements, de commandements que les pharisiens tiraient de la Bible, qui n'étaient pas dans la Bible, mais qui tiraient de la Bible, qui étaient inspirés de la loi de Dieu. Et cet ensemble de règlements, c'est ce qu'ils appelaient la tradition des anciens. Et ils pensaient qu'ils plaisaient à Dieu en accomplissant sa volonté comme ça dans les moindres détails. Et les pharisiens, à l'époque de Jésus, c'était les juifs les plus admirés parce qu'ils avaient eux aussi une si grande connaissance de la Bible et ils paraissaient si pieux qu'ils étaient admirés par la population. Alors les paroles de Jésus que nous venons de lire, elles montrent premièrement une chose, que d'un côté, la religion veut faire beaucoup et demande beaucoup. Les religieux d'aujourd'hui, comme ceux de l'époque de Jésus, ils connaissent bien la Bible. C'est des spécialistes de la Bible. Mais, comme les pharisiens et comme les scribes, ils n'en tirent que des règles, que des commandements à appliquer. Et à leurs yeux, tout le monde devrait observer les commandements qu'ils tirent de la parole. Ils raisonnent en termes de « tu dois faire » ou « tu ne dois pas faire ». C'est comme une liste avec des choses qui sont autorisées et des choses qui sont interdites. Un bon chrétien doit aller à l'église. Un bon chrétien doit lire la Bible. Un bon chrétien doit prier. Un bon chrétien doit s'habiller convenablement, ou soit s'habiller comme ça. Ou alors, si on prend du côté négatif, un bon chrétien ne doit pas regarder ce genre de film quand il va au cinéma. Un bon chrétien ne doit pas regarder ce genre d'émission lorsqu'il est devant son poste de télévision. Un bon chrétien ne doit pas aller sur ce genre de site internet. Un bon chrétien ne doit pas fréquenter des personnes à la moralité douteuse. Un bon chrétien ne doit pas trop boire ou un bon chrétien ne doit pas trop manger. Et la liste, voilà, on pourrait l'allonger. Alors peut-être que tu vas me dire, mais Xavier, tout ça c'est bien ou c'est pas bien? Tout ça, c'est inspiré de la Bible. On pourrait trouver des textes dans la Bible qui disent qu'il ne faut pas trop boire ou pas trop manger. Des textes dans la Bible qui disent qu'il y a des choses qu'on peut regarder et des choses qu'on ne peut pas regarder. Donc tout ça, c'est dans la Bible. Et oui, c'est dans la Bible. On pourrait justifier ce genre de règlement. Et c'est pour ça que Jésus dit de faire ce que les religieux disent, mais il apporte une nuance au verset 3. Il dit « n'imitez pas leur façon d'agir ». C'est-à-dire, ne le faites pas dans l'état d'esprit dans lequel ils le font. C'est de ça dont vous devez absolument vous garder. Ne les imitez pas dans la manière dont ils envisagent les choses. Parce que eux, ils le font dans l'état d'esprit de se soumettre à des règles. Ils tirent des règles et ils imposent ces règles. Et Jésus compare ces règles à de lourds fardeaux, voyez au verset 4. Parce que les règles, ça ne change pas le cœur. Les règles ne peuvent pas agir à l'intérieur de nous. Les règles sont incapables d'agir sur notre volonté. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, inévitablement, ça devient pénible d'observer des règles. Ça devient épuisant de se soumettre à des commandements. Je dois faire, je ne dois pas faire, tout le temps en train de faire attention, en train d'être vigilant. Là, ça, il faut que je le fasse absolument. C'est épuisant, c'est fatigant. Et c'est en réalité impossible de répondre constamment à ses obligations et d'observer tout le temps des interdits. C'est impossible. Pour illustrer ça, je vais évoquer un sport qui est bien de chez nous. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà pratiqué. Le rodéo. Qui a déjà fait du rodéo ici? Ah, c'est vrai? Bah oui, un propriétaire de vaches, de taureaux. Le rodéo. Vous connaissez le principe du rodéo? C'est vrai qu'on le pratique un peu en France, dans le sud de la France. En Ardèche, je crois, en particulier. Mais c'est plutôt un sport qui est observé aux États-Unis, ça vient de là-bas. Vous connaissez le principe du rodéo, notamment avec les taureaux. C'est ça qui est le plus impressionnant. Tu peux le faire avec un cheval, mais aussi avec un taureau. Et quel est le but du rodéo? Tenir le plus longtemps possible sur le taureau. Vous savez quel est le temps que celui qui monte sur le taureau, le cow-boy là, doit tenir sur le taureau? Quel est son objectif? Non. Ouais. 7 ou 8 secondes, exactement. 8 secondes précisément. L'objectif qui est donné aux concurrents, à ceux qui participent au rodéo, c'est de tenir 8 secondes sur un taureau. Pourquoi 8 secondes ? Parce qu'on se dit, effectivement, c'est pas beaucoup. Comme ça, je dis, bah, peut-être que je pourrais le faire. Ça vous donne envie peut-être d'essayer. Je dis, à mon avis, c'est à ma portée. Eh bien, c'est l'expérience qui parle. C'est que tout simplement, on ne peut pas beaucoup plus tenir quand on a 800 kilos de muscles qui s'agitent en dessous de nous. 8 secondes, c'est pratiquement le maximum que tu puisses tenir. Alors, la règle du rodéo, on a une belle photo là qui illustre cela. La règle du rodéo, c'est de s'arnacher au taureau avec une main. Alors, le cow-boy, il passe son pied et son avant-bras dans une lanière pour pouvoir s'attacher au taureau. Et avec l'autre main, son autre main ne doit pas être utilisée. Ça veut dire que le cow-boy a interdiction de toucher l'animal avec son autre main. C'est pour ça qu'à chaque fois, on les voit là, quand ils sont sur le taureau agités dans tous les sens, ils ont toujours la main en l'air parce qu'ils n'ont pas le droit de se tenir au taureau. Ils ne peuvent essayer de maîtriser l'animal qu'avec la lanière, la corde à laquelle ils sont attachés à l'animal. Donc, il ne faut pas qu'ils le touchent. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Soit le cow-boy est expulsé avant les 8 secondes et puis il a perdu. Soit il tient 8 secondes, mais dès qu'il arrive aux 8 secondes, il descend à toute vitesse et il va se mettre à l'abri parce qu'il sait qu'à un moment donné, il finira par se faire expulser et puis il vaut mieux se garer une fois qu'on est à terre pour éviter de recevoir un coup de la part du taureau. C'est ça la règle du rodéo. Eh bien, quand on envisage la vie chrétienne en termes de règles, de commandements, de « je dois faire, je dois pas faire », quand on se soumet à des règles, on fait comme le cow-boy avec le taureau. D'un côté, on dit « je ne dois pas toucher, c'est interdit, je ne vais pas toucher, je ne dois pas toucher ». Et de l'autre, avec les règles, on se ligote à notre nature pour tenter de maîtriser quelque chose qui est 10 fois plus puissant que nous. Parce que personne n'est armé pour, avec sa propre volonté, pouvoir lutter contre sa propre nature. Et on finit à un moment donné, même avec la meilleure volonté du monde, même si c'est inspiré de la Bible, avec des règles, on finit par se trouver expulsé. Et voilà ce que ça donne. Carrément dans l'autre sens. Et sur le plan spirituel, c'est ce qui se passe. Les règles ne peuvent pas empêcher notre nature de s'exprimer. Les religieux, ils sont toujours bien disposés pour dire aux autres comment appliquer la Bible. Mais ils ne l'appliquent pas eux-mêmes. C'est ce que Jésus dit au verset 3. Ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Parce que ces règles, elles sont aussi dures pour eux que pour tous les autres. Alors ils disent, c'est ça qu'il faut faire. Mais en réalité, eux-mêmes ne peuvent pas les appliquer. Les règles souvent camouflent le mal qui est en nous. Mais elles sont incapables de le vaincre. Et là, je pourrais commencer à faire une liste de choses effroyables qui un jour se sont révélées dans la vie de personnes qui semblaient très rigoureuses, très sérieuses dans leur foi, mais qui en réalité ont été incapables de maîtriser certains aspects de leur personnalité ou de leur caractère. Alors, je ne vais pas commencer le catalogue des horreurs, mais simplement comme ça, en évoquant des choses qu'on a pu constater, c'est des gens qui sont là, qui viennent à l'église, qui viennent fidèlement au culte le dimanche matin. Et puis tu t'aperçois, au bout de quelques années, qu'au sein de la famille, y a une personne qui donne des paroles qui sont humiliantes. C'est une personne qui humilie son épouse, qui humilie ses enfants. Tu vois les gens qui sont très sérieux, qui regardent le monde autour d'eux, qui le prennent un peu de haut et qui disent « Ah, heureusement qu'on connaît le Seigneur parce qu'on fait ce qui est bien ». Et puis dans la famille, il y a de la violence. Il y a de la violence physique, ce genre de choses. Des gens qui semblent être très sérieux dans leur foi et puis tu découvres qu'il y a de l'infidélité. J'invente pas. Parce que c'est simplement, ta foi, elle est fondée sur des règles, sur des choses que tu te dis que tu dois faire ou que tu ne dois pas faire. Ça ne suffit pas, c'est impossible. Les règles ne changent pas le cœur. Si tu es porté à la critique, par exemple, c'est pas la règle « ne critique pas » qui va changer les choses. C'est d'apprendre à aimer les autres, Et ça, apprendre à aimer les autres, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu es obligé là de connecter avec Dieu. Tu es obligé là de réaliser que Dieu est amour et qu'en me connectant avec ce Dieu d'amour, je reçois l'amour qui va me permettre d'aimer les autres. Si tu es susceptible, ce n'est pas la règle « ne sois pas susceptible » qui va changer les choses. C'est d'apprendre à avoir du recul par rapport à une remarque, par rapport à une parole qui peut-être d'ailleurs ne te voulait pas du mal, mais simplement parce que c'est toi, c'est comme ça, tu es susceptible. Mais il faut apprendre à avoir du recul. Et ça, le Seigneur peut t'apprendre par son esprit et t'aider à avoir ce recul, à te dire « mais voilà, cette personne n'a pas forcément voulu me faire du mal ». Et la possibilité de dépasser ça, c'est le Saint-Esprit qui va te le communiquer aussi. Si tu es colérique, ce n'est pas la règle « ne te mets pas en colère » qui va changer les choses. Non, ce qu'il faut là, c'est recevoir la maîtrise de soi. Et le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est ce que le Seigneur va aussi te communiquer, te donner. Si tu es pessimiste, si tu vois les choses en noir, ce n'est pas la règle « sois optimiste » qui va changer les choses. Non, c'est d'apprendre à voir les choses avec les yeux de la foi. C'est d'apprendre à vraiment nourrir ton espérance en lisant la Bible, en découvrant qui est Dieu et toutes les possibilités que Dieu peut te donner en agissant au travers des circonstances, en agissant dans ta vie. Et tout ça, on ne peut le recevoir que dans le cadre de cette connexion, de cette relation dans la relation personnelle qu'on a avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs pour le changer. Plus je suis attaché à Dieu, plus j'aime Dieu et plus je change. Ça ne sert à rien d'être attaché à des règles, ça ne sert à rien d'être attaché à des commandements. Ce qu'il faut, c'est être attaché à Dieu lui-même. C'est la relation avec Dieu, c'est chercher Dieu lui-même. Parce que l'action du Saint-Esprit en moi me donne l'amour et la force d'appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, si elle est envisagée que en soi et qu'il n'y a pas cette relation à côté, si elle ne me conduit pas à m'approcher et à approfondir ma relation avec Dieu, ça restera justement simplement un commandement. Mais par contre, Dieu peut me donner vraiment ce dont j'ai besoin pour appliquer sa parole. Je ne fais pas pour être, je fais parce que je suis. Alors d'un côté, la religion, elle demande beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est le deuxième point qu'on va voir ensemble, la religion se contente de peu. Ça peut paraître contradictoire, un peu paradoxal, mais pourtant, ça, c'est vraiment la réalité. Parce que le moteur de la religion, c'est l'habitude. Moteur de la religion, c'est la tradition. On en a vu tout à l'heure que les pharisiens, ils avaient constitué toute une tradition. Et là, c'est ça qui fait que la religion avance. Les pharisiens disaient aux autres, au temps de Jésus, pour faire la volonté de Dieu, respectez la tradition. Voilà, on vous dit ce que vous devez faire. Et si vous faites ce qu'on vous a enseigné, tout est bon. Parce que les règles ajoutées les unes aux autres, c'est ça qui constitue la tradition. C'est très facile de penser que respecter les règles, c'est suffisant pour sa vie chrétienne. Très facile. Ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de se forcer. Et en soi, encore une fois, la tradition, elle ne va pas forcément être mauvaise. Par exemple, parmi les habitudes qu'on a ensemble, on a de bonnes habitudes. Voilà, je crois que venir le samedi soir entre 18 et 20 heures ici, pour se rassembler, c'est une bonne habitude. Venir le dimanche matin entre 10h et midi à l'église pour célébrer le culte, ça fait partie des bonnes habitudes. Et ça correspond à ce que dit la Bible. La Bible dit que c'est bien de se rassembler ensemble pour s'encourager, pour s'édifier. Ça correspond à au rôle de l'église. Mais ça devient religieux quand tu viens juste pour assister à une réunion. Parce que le piège de la religion, c'est que l'habitude ou la tradition, elle est sécurisante. Elle est reposante. En fait, elle est anesthésiante. La religion t'endort. Et tu deviens prisonnier de ton habitude. Il y a une substance que sécrète le cerveau qui s'appelle la myéline. La myéline. Alors, je me suis renseigné sur cette substance, parce que j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, je crois même simplement la semaine dernière, donc ça tombe bien. Et ça m'a tout de suite interpellé. La myéline, elle crée une gaine autour des fibres nerveuses, comme une gaine plastique autour d'un fil électrique. Donc le but de la myéline, d'une certaine manière, c'est de protéger les fibres nerveuses. Et l'effet positif de la myéline, c'est qu'elle augmente la vitesse de propagation de l'information qui passe par les influx nerveux. Et ça permet au cerveau de ne pas constamment envisager chaque situation comme une situation nouvelle. Donc ça permet au cerveau de se reposer. Par exemple, la myéline fait que quand tu t'habilles le matin, tu enfiles tes vêtements pratiquement toujours dans le même ordre. On ne s'en aperçoit même pas, mais c'est souvent ce qui se passe. Tu sais qu'avec seulement 8 vêtements, donc si on compte les deux chaussures, les deux chaussettes, le pantalon, la culotte, le t-shirt, et puis qu'est-ce que j'ai oublié ? Et le pull. Avec 8 vêtements, tu as 1680 ordres possibles de t'habiller. Alors, sachant quand même que tu es obligé de mettre les chaussettes avant les chaussures, on est d'accord. Et le pantalon après le sous-vêtement. Alors, ça, on peut pas faire autrement. Mais avec 8 vêtements, ce qu'on porte habituellement, on a 1680 ordres possibles. Ça veut dire que tu as une combinaison par jour pendant 4 ans et demi. Bah, tu pourrais ne pas t'ennuyer, simplement le matin, en t'habillant. Mais t'imagines, s'il faut dire, ah attends, alors la veille, j'avais mis d'abord la chaussette droite, ton cerveau, on comprend que c'est fatigant. La myéline, c'est ce qui fait que tu t'assois toujours du même côté du canapé pour regarder la télé. Ou que tu t'assois toujours dans le même fauteuil. Je vois qu'il y en a qui se reconnaissent là. Hein. C'est grâce à la myéline ça. La myéline, c'est ce qui fait que tu ranges la boîte de céréales dans le même endroit du placard chaque matin, pour être sûr de pouvoir la retrouver le lendemain matin. Ça paraît extrêmement logique, mais ton cerveau, comme ça, il se repose. La myéline, c'est ce qui fait que quand tu es marié, tu dors toujours du même côté du lit. Pourtant, il y a là les nombres de combinaisons et pas indéfinis. Mais bah voilà, tu prends l'habitude parce que là, sur le côté, tu as tes affaires, tu as... Là, par le biais de la myéline, ça nous permet de comprendre que notre nature nous pousse à trouver notre sécurité dans l'habitude. Tu vois ? Et le problème, c'est que la myéline, ou ce désir de sécurité, c'est aussi ce qui fait que tu t'attends à ce que la réunion de jeûne se déroule dans tel ordre. Ou que le culte, le dimanche matin, se déroule dans tel ordre. Et que quand l'ordre, il est chamboulé, quand il est changé, tu réagis un peu. Alors, il y a des gens qui réagissent, bon, ça les dérange pas plus que ça, ils font juste le constat. D'autres, la couche de myéline, elle est un peu plus épaisse, et ils disent, oh, ben non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et ouais, hein. Ce désir de sécurité, c'est ce qui fait que tu vas t'asseoir pratiquement toujours sur la même chaise quand tu viens à l'église. Alors là, pareil, j'ai fait le calcul. Je me dis, le dimanche matin, quand on vient au culte, il y a environ 400 chaises. Donc, 400 combinaisons possibles. Si on compte que le dimanche, simplement le dimanche, là, le culte dimanche, à raison de 52 dimanches par an, tu peux avoir une place différente pendant 7 ans et demi. Et pourtant, c'est pas ce qu'on pratique, hein, je crois pas. Alors bon, en même temps, moi je vois, c'est plus pratique pour moi d'être au premier rang par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire le dimanche matin. Ce que je voudrais, évidemment, vraiment que vous compreniez bien ce soir, c'est que ces automatismes nous conduisent, ou peuvent nous conduire à l'erreur, à l'habitude, à la tradition. Et ça vient tellement facilement. Et, moi, il y a une erreur que j'ai déjà commise plusieurs fois, sans doute à cause de la myéline. C'est que lorsque je vais conduire mes enfants à l'école, faut qu'un jour je vais conduire Flavie et Cilien au collège et puis au lycée. Et puis, à un moment donné, j'entends mes enfants qui me disent « Oh, papa, tu vas où ?» Et en fait, j'étais parti sur la rocade et j'allais à l'église. Mais sans réfléchir, j'ai fait ça naturellement. Alors en soi, aller à l'église, c'est bien, quoi, c'est pas un problème. Sauf que ça allait poser un problème. C'est que après, t'es obligé de prendre l'autre sortie de la rocade et au lieu de mettre 5 minutes pour amener tes enfants, bah tu mets 15 minutes. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps encore en amenant Cilien, mais je me suis ressaisi, j'ai juste fait un tour de rond-point. Donc, c'est pas aller trop loin, mais... Comme ça vous est peut-être déjà arrivé, si vous conduisez, on prend des chemins parce qu'on a l'habitude comme ça. Je pensais prendre le bon chemin, je pensais aller vers ma destination, mais en fait, je me trompais. Et bien, sur le plan spirituel, ça fonctionne exactement de la même manière. Tu peux croire que tu prends le bon chemin, tu peux croire que tu es au bon endroit, tu es dans la bonne direction pour atteindre ta destination, mais en fait, tu te trompes parce que tu vas manquer ta destination initiale. Si tu fais les choses pour les faire. Encore une fois, ça nous concerne tous, ça nous menace tous. Tu peux faire les choses parce que tu penses que c'est bien de les faire, mais sans vraiment t'investir. C'est important de savoir qu'est-ce qui me motive quand je viens le dimanche matin. Qu'est-ce qui me motive vraiment quand je viens le samedi soir. Qu'est-ce que je viens là trouver dans ces moments où je me rassemble avec les autres. Tu peux faire les choses par automatisme, sans plus trop réfléchir pourquoi tu viens. Et le samedi, ça peut être très sécurisant. Le samedi soir, ça peut être très rassurant parce que tu vas te retrouver avec tes amis et tu sais avec qui tu vas pouvoir parler, avec qui tu vas pouvoir échanger. Tu sais ce que tu vas trouver. Tu vas trouver la musique, tu vas trouver les chants, tu vas trouver la prédique. Quand tu viens le dimanche matin, tu peux faire la même chose que tes parents. Tu peux faire la même chose que ton frère ou ta sœur qui est dans ta famille. C'est ça la tradition. Je parle du dimanche matin, mais même sur le samedi soir, c'est pas parce qu'on est jeune, bon ok, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes à l'abri de ça. Il y a quelques temps en arrière, je vais vous donner cet exemple-là, j'en aurai d'autres, mais on va se contenter de celui-là. On avait fait tout un temps, le samedi soir, où on avait parlé de la prière. On avait pris le temps de donner un enseignement aux jeunes sur la prière. Et les leaders qui étaient intervenus le samedi soir avaient pris ce thème. On l'avait fait sur plusieurs samedis, puis on avait dit, là, le prochain samedi, au bout de 3 ou 4 samedis, on va faire un temps de prière, tous ensemble, avec les jeunes. Et pour ce faire, on s'est dit, pour casser un peu notre habitude, on va disposer les chaises différemment. Alors avant, il y avait dans cette salle ici, il y avait 3 rangs, comme ça. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent. Et puis on les avait mis plus en arc de cercle, comme on faisait encore l'année dernière. Et il y a un jeune qui était là et qui venait régulièrement, mais je ne sais pas ce qu'il prenait. Je ne sais pas ce qu'il prenait quand il venait. Il est arrivé et il a vu les chaises simplement mises en arc de cercle. Il a dit, mais c'est quoi ça? C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Alors il y a un des leaders qui l'explique. Bah, en fait, ce soir, on va faire une réunion de prière. Et pour vraiment là nous disposer à la prière, à rencontrer Dieu, à rencontrer Jésus, on casse un peu nos habitudes. Et puis, il dit, non, moi je vais pas prier. Il est parti. Parce que on avait mis les chaises autrement. Mais il était myélinisé de la tête aux pieds, le pauvre. Enfin, moi, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que si c'est ça qui t'arrête, alors que le but... c'est de rencontrer Dieu. Le but, c'est de s'adresser à Dieu, c'est de vivre quelque chose dans la relation avec Dieu. C'est dramatique. Et c'était dans la réunion de Gênes. Tu peux perdre comme ça la destination première, l'objectif initial. Là, parce que la raison de se rassembler, c'est de cultiver notre relation avec Dieu, c'est de grandir dans la foi, c'est d'améliorer notre caractère, c'est de se saisir de ce qui peut être donné, de ce qui peut être partagé, se saisir de ce que Dieu veut nous donner dans sa présence pour pouvoir changer, pour pouvoir être transformé. Si on vient, c'est pour servir Dieu, pour que son royaume avance. C'est ça qui doit profondément nous motiver. C'est ça là qui doit nous impulser pour que nous puissions venir ensemble le samedi soir. Si tu regardes toutes les religions du monde, tu verras que toutes ces religions invitent à faire de bonnes actions pour être sauvé ou pour être béni par Dieu. Pour pouvoir aller au paradis, pour pouvoir avoir mon salut, je dois observer tel rite. Je dois réciter telle prière à tel moment. Je dois faire preuve de générosité. Je dois honorer mes parents. Tu retrouves d'ailleurs à peu près tous les mêmes commandements dans chaque religion. Et l'évangile dit carrément le contraire. L'évangile, le message de l'évangile, ce que Jésus est venu apporter aux hommes, prend le contre-pied de ce que toutes les religions enseignent. L'évangile dit que Jésus a tout accompli pour que les hommes soient sauvés. Ce n'est pas les hommes qui doivent faire, c'est Jésus qui a déjà fait. Parce que tout ce que nous pourrons faire pour Dieu ne sera jamais suffisant. Dieu est parfait. Et pour pouvoir être accueilli dans sa présence, pour pouvoir être sauvé, ça veut dire qu'il faudrait que nous soyons nous-mêmes parfaits au travers de nos œuvres, au travers de nos actions. Et ça, c'est impossible à faire. Personne ne peut le faire. C'est pour ça que Jésus a accepté de mourir sur la croix. C'est pour ça qu'il a dit, moi, j'accepte cette condamnation. Normalement, elle devrait tomber sur les hommes parce qu'ils sont incapables les uns et les autres de pouvoir accomplir toute ta volonté, mais moi qui ai accompli toute ta volonté, par amour pour l'humanité, par amour pour chacun d'entre nous, il a dit, je vais mourir à la croix. Je vais subir cette condamnation pour que eux puissent être sauvés. Alors, ce qu'il nous revient de faire, c'est d'accepter ce message par la foi. C'est de croire en ça. C'est de dire, Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi. C'est toi mon sauveur. C'est toi qui as parfaitement accompli ce qu'il fallait pour que je puisse avoir l'espérance de l'éternité auprès de Dieu. Et quand je comprends que je suis sauvé grâce à Jésus, mais ça remplit mon cœur d'amour, ça remplit mon cœur de reconnaissance, et ça fait naître ce désir de devenir ce que Dieu veut que je sois. Et mon objectif premier, c'est de devenir, c'est d'être, c'est plus de faire. Quand je viens au groupe de jeunes ou à l'église le dimanche matin, je ne viens pas pour faire quelque chose, je viens d'abord pour quelqu'un. Lire la Bible, écouter la prédication, prier, chanter, tout ça, ça doit d'abord être motivé par notre désir de rencontrer Dieu. Je viens pour rencontrer Dieu, je viens pour l'entendre lui. L'adoration, ce n'est pas simplement chanter ou jouer de la musique, mais l'adoration, c'est exprimer mon amour et mon attachement à celui qui m'a sauvé, à celui qui m'a aimé parfaitement. Écouter une prédication, ce n'est pas ce qui va me bénir en soi. Ça n'a pas d'effet en soi, une prédication. Ce qui va me bénir, c'est de venir avec l'objectif de changer afin d'être la personne que Dieu veut que je sois. C'est ça mon objectif, c'est ça qu'il faut que je vise. L'objectif, ce n'est pas la réunion. L'objectif, c'est Dieu, c'est Jésus. L'objectif, c'est solidifier ma foi. L'objectif, c'est renouveler ma foi. L'objectif, c'est apprendre à connaître la volonté de Dieu pour être la personne que Dieu veut que je sois. C'est ça qui doit nous motiver. Parce que l'important, ce n'est pas tant de venir que de devenir. Ne viens pas, mais deviens. Il y a des choses dans la Bible qui sont difficiles à mettre en application. La Bible me dit que je dois mettre Dieu en premier. Pas toujours évident, j'ai tellement de préoccupations, tellement de choses à penser, tellement de problèmes auxquels faire face quelquefois. Mettre Dieu en premier tout le temps, aimer son prochain. C'est chaud ça. Il y en a, ça va. Il y en a d'autres, c'est presque impossible d'aimer. Être généreux, pardonner. C'est dur à appliquer ça. Mais si je prends chacune de ces choses comme des choses à faire, forcément je vais être confronté à mon incapacité. Alors, je vais peut-être simplement faire le minimum pour sauvegarder les apparences. Là, avoir le langage du pardon dans ma bouche, mais être incapable de pardonner. Avoir le langage de l'amour dans ma bouche, mais être incapable d'aimer certaines personnes. J'aurai le langage, mais ce sera juste les apparences. Ou au pire même, je peux laisser tomber. Parce qu'il y a des moments, c'est tellement désespérant de ne pas arriver à aimer. C'est tellement désespérant de ne pas arriver à faire ce que Dieu demande, que dire, bon allez, c'est bon. Finalement, je ne suis pas une assez bonne personne. Ça me fatigue, j'en ai marre. J'abandonne, c'est impossible. Par contre, et c'est vraiment ce qu'il faut qu'on recherche ce soir, si mon désir est de rencontrer Dieu et de lui permettre de faire quelque chose en moi, si je fais preuve d'humilité et de sincérité, et que je compte sur l'œuvre du Saint-Esprit en moi, je deviens quelqu'un qui peut aimer Dieu. Je deviens quelqu'un qui peut aimer son prochain. Je deviens quelqu'un qui peut donner. Je deviens quelqu'un qui peut pardonner. C'est pour ça que mon but, c'est de devenir. Pas seulement de venir, mais de devenir. On va prier ensemble. Je vous invite à ouvrir votre cœur, vraiment. Considérez pas que la religion, ça concerne que les autres. Considérez pas que la religion, c'est ailleurs que dans notre église, c'est ailleurs que dans le groupe de jeunes. Comme je le disais tout à l'heure, la religion, elle peut être là à tout moment, elle peut nous bondir dessus. La tradition, l'habitude, tout ça, ça peut nous rattraper. Quelquefois même sans qu'on s'en aperçoive. C'est tellement facile de voir les défauts des autres, mais là, on est vraiment appelé à demander au Seigneur qui nous aide à être vigilants. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va prier avant de reprendre ces chants et qui vont nous permettre à nouveau d'entrer dans la présence de Dieu. Seigneur, vois nos cœurs. Nous voulons vraiment les répandre devant toi ce soir. On ne veut pas de faux semblants. On ne veut pas d'hypocrisie. On ne veut pas simplement des apparences. On ne veut pas venir pour venir. Seigneur, ce que l'on veut, et je te demande de mettre cela dans chacun de notre cœur, dans chacun de nos cœurs, c'est un désir profond, quelque chose de qui vienne du plus profond de nous-mêmes de te rencontrer. À chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, que ce soit le samedi soir ou que ce soit le dimanche matin ou quelque autre occasion, que ce soit Osmos Focus ou toutes les autres occasions qui nous sont données, je te prie, mon Dieu, que ce qui nous motive, c'est que tu fasses ce travail en nous, c'est que tu nous changes, c'est que tu nous transformes. Je te prie que ce qui nous motive, ce soit notre amour pour toi, qu'on puisse toujours plus réaliser ce que tu as volontairement accompli pour notre salut, ta grâce, ton amour, et que ça, le cœur rempli d'amour pour toi, le cœur rempli de reconnaissance, on vienne pour te dire, Seigneur, viens me changer, viens, aide-moi à devenir la personne que tu veux que je sois. Seigneur, aide-nous à être honnêtes, aide-nous à être sincères, aide-nous à te confesser chaque fois nos incapacités, nos erreurs, nos fautes. On peut le faire avec confiance parce que tu ne nous condamnes pas, tu ne nous juges pas. Tu nous accueilles avec amour et tu nous dis, oh, je vais te changer, je vais t'accompagner, je vais t'aider. Merci pour ta grâce. Parce que ta grâce fait que même quand on fait des fautes, même quand on commet des erreurs, on peut continuer de marcher avec toi. Seigneur, je te prie, mon Dieu, que par ton Saint-Esprit, tu nous donnes de le réaliser profondément. Nous ne voulons pas marcher par des commandements et par des règlements. Nous voulons marcher par ta grâce, nous voulons marcher par la foi. Nous voulons marcher par l'Esprit de Dieu, Seigneur. Que ton Esprit descende sur chacun d'entre nous ce soir. Que ton Esprit descende sur chacun d'entre nous à chaque fois que nous nous rassemblons. Afin que nous soyons libérés de l'habitude. Et que notre objectif soit jamais la réunion, mais que ce soit toi. Ta personne, ton amour. Amen.